on est le 23 avril 2012. Je vais vous demander de vous présenter.
Ben, je m'appelle Charles André, né à Celles-sur-Ours.
Vous êtes né
le 9 août 1934.
Pardon ?
9 août 34.
Et où exactement vous êtes né ?
Celles-sur-Ours.
Oh, c'est lent. Où ? À quel endroit dans Celles ?
Ah ben, pour vous dire, on a changé de maison, j'habitais près de l'ancienne poste, et puis après, mes parents m'ont fourni une maison au 17 Grande Rue, voilà. Et après, au 17 Grande Rue, je me suis marié, en 57 en revenant d'Algérie, où j'ai fait 30 mois. Et ensuite, disant que j'ai voulu faire le métier de mes parents, pareil, parce que déjà à 14 ans ou 12 ans, ils nous emmenaient aux vignes.
Et que faisaient vos parents ?
Viticulteurs. Faisaient déjà du champagne en 30. C'est un des premiers dans le secteur qui a fait du champagne avec Fluteau, Fleury. Et puis ici, un nommé Jean Arnoux, qui est disparu. On ne le retrouve plus, disant que c'était un négociant qui était venu faire du champagne sur Celles-sur-Ours. Alors donc, le champagne, il date déjà depuis un moment de notre secteur. Qu'on dise les Marnais, la Marne, ça a toujours été un peu la bagarre avec eux. Et ils ne peuvent pas accepter qu'on puisse faire du champagne ici, dans l'Aube, tout du moins dans la période qu'on a vécue, dans les années, pour vous dire les années, disons dans les années 30, quoi. Et puis nos grands-parents, ils vendaient leur vin, là, ils venaient, si vous aimez mieux, un camion nous déposer des fûts de 200 hectolitres qu'il fallait remplir et c'était rechargé et ça repartait déjà dans la Marne. Alors, les vignerons de sel, ils essayaient d'arriver le plus tôt possible quand le camion amenait des pièces vides et pour prendre les, si vous aimez mieux, les pièces qui tenaient le moins de vin possible, le moins de jus de raisin, parce que le jus de raisin, il l'emmenait comme ça, il revenait chercher les tonneaux, mais il y avait des pièces qui faisaient 200 litres et des pièces qui faisaient 210 litres. Alors, c'était c'était jugé à peu près comme ça, il n'y avait pas le nombre de litres marqué sur un tonneau. Et ensuite, nous étions plantés en Gamay, en plan. Le Gamay, et disons que il a fallu qu'on se mette au diapason dans toute la Champagne pour arriver à arracher le plan de Gamay et remettre des nouveaux plans, des pinots, quoi. Je vous parle ça du temps de mon père, quoi. Hein, parce que dans ce moment-là, c'était dans les années. Dans les années 50, quoi.
Vous avez connu vos grands-parents,
quoi ? J'ai connu mon arrière-grand-père, oui. L'arrière-grand-père, en 1927, 28, 29, avait vendu toute sa production à un nommé Condin Harissé, c'est un gros négociant, et les vignerons n'ont pas été payés. Alors du coup, mon grand-père a été travailler moitié du temps au chemin de fer. Ils acceptaient au chemin de fer, si vous aimez mieux, ils acceptaient les gens qui étaient un peu en difficulté, quoi. Hein. En ce moment, je ne sais pas si le chemin de fer fabrique ça, fait ça. Et ensuite, mes parents ont continué. Ils étaient... Mon grand-père a eu deux frères, deux fils, et il y a un fils qui était dans la, si vous aimez mieux, il a commencé aux économiques troyens à Londreville, et puis après, il est reparti à Vitry-le-François, et ensuite, il est parti à Lisieux, tenir un grand hôtel. Et mon père faisait la vigne pendant ce temps-là. Quoi. C'est là qu'il a décidé, les premières fois, hors deux, trois, se situaient à peu près en 35-36, et mon père avait déjà commencé à faire une petite foire là-bas, et il pouvait vendre son champagne, quoi.
Et comment il a appris ?
Hein ?
Comment il a appris de faire du champagne ?
Eh bien, ça pétillait, si vous aimez mieux notre vin, il pétillait naturellement. Alors il suffisait d'y mettre un petit morceau de sucre, reboucher les bouteilles. Si vous aimez mieux, dans ce moment-là, il y avait le liège, on bouchait, et puis une agrafe dessus, et ça pétillait. Alors, le sucre, il fallait terminer ce qu'il fallait mettre au litre. Alors après, ils ont su, les 3-4 négociants, 3-4 marchands qui ont commencé ici dans le coin, ils ont su, si vous aimez mieux, qu'il fallait une vingtaine de grammes de sucre au litre pour arriver à faire pétiller le vin en mettant des levures. Et puis dans ce moment-là, les levures, on pouvait les acheter soit aussi bien à Épernay ou à Reims, dans des instituts, ou alors on pouvait acheter un petit échantillon chez le pharmacien de la levure de boulanger. Et après, petit à petit, on démultipliait les levures et puis on mélangeait ça au vin et la valeur à 20 grammes de sucre au litre, et on rebouchait et on obtenait le gaz carbonique. Alors après, au bout de 6 mois, on pouvait, si vous aimez mieux, descendre le dépôt au goulot et puis enlever le dépôt. Alors dans ce moment-là, on enlevait le dépôt à la main, avec devant une guérite, comme on appelait, et puis le dépôt il partait, et après on remettait tout petit peu de liqueur. La liqueur, c'était du vin vieux et du sucre de canne. Déjà, les sucres de canne en chapelet, c'est-à-dire qu'il était, il faisait fondre le sucre, et puis le sucre de canne il descendait en chapelet comme ça, en gros morceaux. Alors il fallait le faire fondre, et puis après on rajoutait une petite liqueur dans le champagne, suivant ce qu'on voulait faire, quoi, le brut ou le demi sec. Le brut on en mettait plus, moins, et le demi sec plus. Un deuxième bouchon de liège, et puis après une agrafe, et c'était terminé. Il pouvait être vendu.
Alors au début, il n'était pas vraiment champagnisé.
Si.
Dès le début.
Dès après, au mois de janvier-février, on pouvait le mettre en bouteille. Et puis là, en Champagne, il commençait déjà à avoir une petite réglementation. Il fallait le garder quand même 6 mois. Après, la réglementation, ça a été 9 mois. Après, ça a été 12 mois. Et maintenant, c'est après la mise en bouteille, c'est 15 mois. Peut-être que vos collègues que vous avez interrogés ne vous ont pas parlé de ça. Non, c'est pas là-dessus que vous vouliez arriver à faire quelque chose.
Si, si, aussi. Et comment il l'appelait son champagne au début ?
On l'a toujours appelé champagne.
Mais
parce que depuis 1911, disons que moi j'étais pas d'accord qu'on remette ça, parce que les jeunes marnais, ils n'ont pas appris ça à l'école, la révolution de 1911, des hautbois. Il a fallu que ce soit un socialiste tchèque qui a entraîné tous les gens du secteur pour arriver à ce que nos copains là-bas de la Marne nous acceptent en Champagne, quoi. Et ça a été fait, et le gouvernement, tout de suite, quand il a vu que ça prenait de l'ampleur, parce que les vignerons d'ici, ils avaient les fourches, ils avaient tout, ils étaient prêts à monter à Paris.
Et ça, vous l'a raconté, ça ?
Comment ?
On vous l'a raconté ?
Et ben oui, d'ailleurs, vous n'avez pas suivi la révolution de 1911 ?
Oui, mais vous, dans votre famille, on en parlait ?
Et ben oui, les grands-parents et tout, ils étaient... pareil, il marchait quand même. Et je vais vous dire, tous les vignerons du coin, dans ce moment-là, ils étaient tous socialistes, hein, comme on appelait. C'était déjà le truc de la droite, de la gauche, comme ça se passe en ce moment.
Mais qu'est-ce qu'ils vous racontaient, vos grands-parents, ou votre arrière-grand-père, de la révolte ?
Eh bien, qu'ils se retrouvaient soit à Bar-sur-Aube, parce qu'ils avaient les vélos dans ce moment-là, il n'y avait pas de véhicule, ou soit la plus grande révolution qu'il y a eu, c'était sur Polizzo. C'est là qu'il y a eu le plus de monde. Et après, ils sont montés à Troyes, à la préfecture. Et puis, si la préfecture n'avait pas donné ordre, dire à Paris, il faudrait peut-être arrêter, et le gouvernement, il a dit, eh bien, ils vont rester champenois. Ça s'est fait comme ça.
Mais ils vous ont raconté des histoires ou ce qu'ils ont fait, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ?
Eh bien, ce qu'ils ont fait, ils nous ont toujours parlé que... Ils étaient pauvres, ils arrivaient tout juste à vivre, parce que tout le monde avait une ou deux vaches, si vous aimez mieux, il y avait des lapins, des poules, et puis il n'y avait pas de commerçants comme on trouve en ce moment. Hein. D'ailleurs, tout ce qui s'est dit, ceux qui ont fait pétiller le vin, ce serait... l'abbaye de Mort entre Celles et Landreville. Et les vignerons, c'était des veaux vignes, ils allaient aux vignes, et puis les curés, ils les payaient souvent très mal, quoi, juste pour la nourriture. Alors le mot Celles vient du mot celte, ça veut dire manant. Non, nos arrière-grands-parents, ils étaient tous manants.
Mais est-ce qu'ils vous ont raconté, vos grands-parents, ce qu'ils ont fait en 1911 ? Comment ça s'est passé ? Est-ce
qu'ils ils nous ont dit subsidiairement ce qui marchait quand on venait les chercher pour aller d'un côté de l'autre. Ils n'étaient pas en première ligne, si vous aimez mieux, ils n'ont jamais été en première ligne. Hein. Non, ils suivaient le mouvement pour aller, nos grands-parents... Le truc au départ, ça a démarré à Bar-sur-Aube avec un socialiste, un député tchèque, et puis vraiment, ça a venu ici dans le Barcécoinet, mais au départ, c'était, si vous aimez mieux, le Bar-sur-Aubois qui avait mis ça en route. Hein.
Mais ce n'était pas un sujet, quand vous étiez enfant ou jeune, qui était beaucoup abordé ?
Non, on pensait plutôt, ils essayaient surtout de s'en sortir. Pour arriver à vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus tard, je vous dis, les grands-parents, ils n'ont pas été payés de leur vin. Ici, tout le secteur hein, qui vendait leur... ils nous en ont parlé, nos grands-parents. Puis le grand-père, il allait travailler moitié du temps au chemin de fer à Troyes, avec un vélo.
Et durant l'occupation, il y a eu... Ça a continué la vente de champagne ?
Durant l'occupation, ça a continué à faire du champagne. Mon père n'a pas été prisonnier puisqu'il avait été réformé, si vous aimez mieux, puis il restait là. Lui, on pourrait encore dire qu'il s'occupait un petit peu de la résistance au parachute qu'il y avait sur le plateau de Celles. Ils étaient deux ou trois, la nuit, quand il y avait le feu, les Britanniques et puis aussi bien les autres avions, ils parachutaient des armes sur le plateau. Et puis après, c'était les résistants qui venaient chez Lachelot chercher les armes, et puis les Allemands, ils passaient autour, ils tournaient, quoi, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Après, il y a eu un gros truc, c'était en 44. Tous les résistants, ils se trouvaient là-haut sur Landreville, Mussy. Les Allemands, ils ont tué une soixantaine de gars à la résistance. Il y en a un qui a pu survivre, il a fait le mort, c'était le patron de la ferme là-haut, entre Landreville et Picelle. Ils l'ont pris pour mort, alors ils ne l'ont pas fini, mais il est resté. Je sais que lui est resté, mais les autres, on n'a pas tellement su ceux qui restaient encore vivants, mais ils en avaient tué une soixantaine là-haut. Oui, et alors.
Ça continuait, la vente du champagne continuait.
La vente du champagne, ça continuait. Je vous allais dire, à Celle, il y avait un négociant, pourtant il faisait partie de la résistance. Il venait charger le champagne de chez l'un, de chez l'autre. Il les menait au Claridge à Paris. Alors, il devait y avoir aussi bien des Français que des Allemands qui buvaient le champagne là-bas. Mais dans ce moment-là, on n'était pas obligé de marquer le nom. C'était champagne, une étiquette, et ça partait. Et puis après, c'était obligatoire de mettre son nom sur les bouteilles, quoi.
Quand ça a été obligatoire?
Ah ben, je peux pas vous dire.
Et vous vous souvenez de...
Moi, je sais qu'en 34... moi, je suis né en 34, je sais que mon père, depuis 34, il avait quand même des étiquettes, lui. Enfin, le gars qui travaillait pour Paris, aussi bien les Allemands que les Français au Claridge, il les emmenait comme ça. Hein.
Parce que ils étaient vendus à qui pendant l'occupation?
Eh bien, si vous aimez mieux, il y a des petits négociants qui se trouvaient dans le secteur, il y avait Vendeuvre, il y en avait à Troyes, il y en avait. Et comme c'était les premiers qui avaient fait le champagne, et c'était déjà connu, quoi. Ils allaient aussi bien chez Fleury, chez Flutot, ou chez Jean Arnoussi, au pays, quoi. D'après ce que j'ai su, puisque j'étais pas là en 34. Mais enfin, je me rappelle bien quand même, le jour où on est parti de chez nous. C'est-à-dire qu'on avait un cheval, mon père avait un cheval, et on avait emmené les cochons, les lapins, et puis on était quatre gosses, on dormait dans la voiture chargée, un matelas et tout. Puis on s'est retrouvés, si vous aimez mieux, là-bas, presque à Beaune, parce que les Allemands, ils nous poussaient au derrière, et puis là, on a été mitraillés sur la route plusieurs fois, on nous disait ce sang, les Italiens, c'est les Italiens, ils marchaient avec les Allemands dans ce moment-là. Ben ça, tout ça, vous le savez. Hein?
Et vous vous souvenez un petit peu?
Eh ben, je me rappelle d'être à Plavent dans un parc, au milieu des vaches, parce que les Italiens et ma mère se dépêchaient pour aller nous tirer du lait après les bêtes, après les vaches, pour nous donner à boire, quoi. 34, 36, 38 et 42. On était quatre gosses dans la voiture avec le cheval. Et puis après, on a su que la guerre était terminée. On est revenu ici au pays, quoi. Enfin, il y a eu des maisons qui ont été pillées, parce qu'il y a des gens qui restaient dans le coin, puis des autres gens qui se sauvaient, qui rentraient dans les maisons, quoi.
Et vous vous souvenez avoir vu des Allemands?
J'ai vu des Allemands dans deux places. Ici, entre Bar-sur-Seine et Bellevue, dans les champs, quand vous partez à bord. Un coup, c'était les Allemands. Et après que les Allemands ils ont été expulsés par en 44, début juin, juillet, ce sont les Américains qui ont occupé, si vous aimez mieux, les champs. Ça fait qu'on a connu en étant vélo, les jeunes. Puis comme on faisait du champagne, on leur amenait une bouteille de champagne aussi bien aux Allemands. Et nous donnait, pour ça ils étaient heureux de boire une bouteille, et nous donnait, si vous aimez mieux, des confitures, ils nous donnaient pas mal de choses. Qu'on ramenait, si vous aimez mieux, dans la musette, parce que c'était le vélo. Et ensuite, les Américains, c'était le même topo. Ils étaient heureux de boire un petit coup.
Donc, les Allemands, les Américains, quand vous étiez enfant, c'était à peu près pareil.
Ah oui, pour nous c'était pareil. Hein. Vu qu'ils nous prenaient pas, on n'était pas juifs, rien, alors. Parce que la razzia juif avait été faite avant. Hein. Bon, ensuite, on est arrivé, comme tous les autres, quoi. On allait aux vignes. Entre-temps, en revenant de l'école, je suis allé à l'école de Celles-sur-Ours jusqu'à l'âge du certificat d'études. Et 10 ans qu'après, mes parents ils ont dit « tu devrais aller à l'école de viticulture ». Alors je suis allé à l'école de viticulture d'Avize, dans la Marne. Et c'était la première année qui ouvrait l'école. Pas de feu. Dans ce moment-là, les feux, ça n'existait pas. Non, on n'était pas chauffé. J'ai attrapé la grippe, c'est le cuisinier qui travaillait là, il me dit, tiens, viens dans chez nous, j'ai pas de feu non plus, mais il fait bon dans nos chambres. Alors je suis allé coucher chez le cuisinier. Dans ce moment-là, c'était familial, l'école de viticulture, là, bon, au point de vue professeur, j'ai sorti œnologue dans ce moment-là. J'ai fait 2-3 ans et disons qu'on avait des Alsaciens pour nous instruire. Il ne faut pas taper. Bon. Et j'ai des bons souvenirs de l'école de viticulture, mais par contre, il y avait déjà des gens de là-bas qui n'aimaient pas les hautbois parce qu'ils disaient, vous, vous faites que du mousseux, nous, on fait du champagne.
Mais, c'est dans quelle année, ça?
Hein?
Dans quelle année, ça?
Eh bien, il faut revenir à l'arrière, hein, parce que 14 ans, je suis né en 34. Il faudrait prendre une petite machine à calculer. En 34, pour aller jusqu'à 34 plus 17, vous pouvez faire de tête?
51?
Eh bien, 51, 52, 53, je suis allé là-bas à l'école, quoi. Et dans ce moment-là, on rentrait au mois d'octobre, j'étais interne, on revenait pour Noël, après on repartait début janvier, on revenait à Pâques, et puis après, c'était la fin. Et disons, dans ce moment-là, mon père avait acheté une petite 202 camionnette, il faisait les voyages, quoi, il nous emmenait comme ça. Oui, vous voyez, déjà, dans ce moment-là, ça commençait à avoir 4 sous pour pouvoir croûter, quoi. Puis je me rappelle, c'était plus comme en ce moment, maintenant, les régimes pour employer quelqu'un, c'est vraiment inimaginable. Les gens, ils arrivaient à manger aussi, chez les paysans, chez les vignerons, d'un côté de l'autre. On voyait un gars avec un ballot sur le dos. Il disait, vous n'avez pas un peu de travail? Ben, on était un peu de social quand même. Ben oui, on va te prendre 8 jours, 8-10 jours. Et puis, il mangeait, il couchait, puis il repartait plus tard. Il faisait le tour de France. Il y avait beaucoup de gars qui faisaient ça. Tandis que maintenant, c'est plus du tout le même régime. Hein. Bon, aussitôt, j'ai travaillé 2 ans chez nous. Et puis, je suis allé soldat à 20 ans. Et puis, je suis rentré... j'ai fait 2 ans et demi, à 22 ans et demi, quoi. 23 ans de l'armée, quoi.
Vous êtes allé où?
Eh bien, à la frontière tunisienne, en Algérie. Ouenza, Morsot, Soukaras, Tébessa. On se trouvait à faire des opérations avec le général Bijar. On a eu vraiment beaucoup de tués. Ils nous attendaient. Ben, je suis content d'être revenu. Enfin, on a eu des bons moments entre nous. Je me trouvais avec les gars du Nord et tout. Alors, il fallait bien qu'on brague un petit peu de temps en temps. Alors, pour la douche, on mettait, si vous aimez mieux, en haut d'un sapin, on mettait l'eau dans un arrosoir et puis on se douchait comme ça, quoi. Puis la nuit, embuscade. Et puis monter la garde. Il y avait tout ça. Parce que après, ils nous ont mis pour monter le réseau électrifié là-bas, au long de la frontière. Tu dis, c'était la frontière tunisienne. Il y avait 35 mètres de large. Même, oui, au moins 35 mètres. Et disant qu'on arrivait à faire des embuscades, ils essayaient de passer le réseau électrifié. Le réseau électrifié, c'est-à-dire que c'était du courant qui était mis dans les fils, des fils électriques et puis des gros grillages pour pas qu'ils passent, quoi. Et total, déjà dans ce moment-là, et d'après ce que j'ai toujours entendu dire avec les gradés, ils avaient déjà, pour passer les félagas la nuit, on les appelait les félagas, ils passaient dans... Déjà dans un trou sous le réseau électrifié avec des petites machines japonaises qui arrivaient à creuser sous le réseau électrifié. Et par contre, de temps en temps, ils tiraient un peu parce qu'il y avait des miradors pour ouvrir et fermer le courant et ils tiraient sur les gars qui étaient là-dedans. Alors il fallait monter des embuscades pour essayer de les tuer. C'était vraiment une grande bagarre, parce que, je sais pas si vous le savez, combien qu'on a eu de tués là-bas, on en a eu quand même une cinquantaine de mille, les Français. Merde, je tape là-dedans. Et je croyais qu'on en avait moins, et puis l'autre jour on m'a dit, sûr, on est 47-50 mille qu'on a eu.
Et ça vous changeait de sel?
Hein?
Ça vous changeait de scène ou d'avis?
Ah bah ça changeait d'avis, nous c'était. Ah. Et puis le matin, on n'avait pas d'eau, puisqu'on était, si vous aimez mieux, dans la nature, sous des tentes, des fois sous des locaux, un petit peu, on appelait ça des borges du caïd, ils vivaient là-dedans, mais ils n'existaient plus. On se planquait comme on voulait, quoi, comme on pouvait. Mais on allait à l'eau avec les aftraks, une tonne. Et puis là-bas, on allait à l'eau et puis et on avait des ouèdes, comme on appelait, parce qu'il n'y avait pas de pont. Alors il suffisait qu'il menait un orage, on était bloqué, qu'on ne pouvait pas revenir à notre campement. Les autres, ils nous attendaient. Alors après, on a dit, allez en avant, on était comme dans les cow-boys. Là. J'aime bien voir les cow-boys. on s'encerclait et puis... On ne les laissait pas approcher parce qu'ils voulaient nous... Ben c'est comme tout, c'était la guerre, quoi. Ils voulaient nous aiguiller. Quoi. Puis après, quand les ouèdes, l'eau partait, parce que c'était des... ça tombait par trompe d'eau. Hein. Si vous aimez mieux, ça fait presque ça ici. En ce moment, dans le midi, quand vous voyez des gros orages et tout, c'était un peu ça. Mais alors, comme il n'y avait pas de pont, on ne pouvait pas passer. Alors on revenait aussi bien. Et puis après... Il fallait qu'on se méfie avec les aftraks. On avait des durs, des gars de l'armée, nos gradés qui en voulaient. Ils nous faisaient passer 5 ou 6 fois tirer dessus et recommençaient. Ils voulaient en avoir des gars. Ils voulaient en avoir, mais après, ça tirait par tous les bouts, hein, d'un côté comme de l'autre.
Hein? Il y a des moments où on a peur.
Eh bien non, on n'avait pas peur. Quand on avait un ou deux, on les ramenait dans l'aftrac des gens de chez nous qui se trouvaient tués. Et puis après, on était une vingtaine dans un aftrac ou 15. On ne savait pas si le gars le montait, il était blessé. En arrivant, il était mort. Quoi. Ben, tout le monde aussi. Tout le monde essayait de se protéger comme il pouvait, quoi. Des fois, quand on passait sous les sapins, sous les arbres, il y avait une grenade qui tombait, parce que les gars, ils se trouvaient, les flagons aussi bien sur un arbre. Tac. Ah, c'était la guerre et guérilla en même temps, il y avait les deux. C'était pas deux francs qui arrivaient à s'affronter. Et puis, je suis revenu en 57, et aussitôt, comme je fréquentais avant de partir à l'armée, Ben, les parents, ils avaient prévu le mariage en rentrant. Ils ont dit, si on le laisse dans la nature, je sais pas ce qu'il va avoir, je sais pas ce qu'il va y arriver. Et alors, depuis 57, je suis toujours avec la même femme, quoi.
Ça a été dur, leur tour ?
Hein ?
Leur tour a été dur ?
Non, je me suis bien acclimaté tout de suite. Quand tu as une fiancée, bon, et tout, bon, le boulot, c'était un peu plus dur, puisque c'est pas le même boulot, la vigne, mais en revenant pour l'hiver, mon père faisait déjà du champagne, alors on a travaillé dans les caves, quoi. Et puis après, dans les vignes. Et puis, disons que... Ça marchait. Nous, les Parisiens, ils descendaient beaucoup dans la vallée de l'Ours, là. Ils achetaient des petites maisons. Et alors, moi, mes bouteilles, elles se trouvaient comme ça, sur le bord de la route. Ils ont dit, ils font du pinard, ceux-là. Alors, ils rentraient, ils allaient aussi bien chez moi ou chez mes parents en face, quoi. Ça s'est fait comme ça, quoi. Et depuis, on a une clientèle, on se plaint pas. Moi, j'ai fait jusqu'à 250 000 bouteilles parce que, après, moi, j'ai acheté, si vous aimez mieux, j'étais un fanatique de planter de la vigne. Alors, j'ai acheté beaucoup de terrains et puis je les ai plantés suivant ce qu'on avait eu droit par l'INAO qui existait déjà avant et puis notre syndicat. Et ben, je suis arrivé à faire une vingtaine d'hectares de vignes dans les 10 ans, parce que là-bas à Épernay, ils me prenaient pour un négociant au départ. J'avais des droits comme un négociant, et puis j'étais pas négociant. Alors ils se sont trompés, c'est de leur faute, ils m'ont donné. Mais après, j'ai eu que les 25 ans qu'ils donnaient, quoi. Mais je me suis fait quand même un vignoble de 20 à 22 hectares, quoi. Et puis après, au bout d'un moment, on avait eu 4 enfants, et j'ai voulu partager. Alors, ils ont eu chacun 5 hectares de vigne, mais pour vous dire l'année...
Oh, c'était mis en 81,
peut-être.
Je crois que c'est en 81. Et bien, on a tout fait.
Alors,
même le percepteur.
Ah bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'il fallait qu'on...
Allez, je coupe. Vous avez commencé combien de parcelles, combien d'hectares ?
Eh bien, disons que j'ai hérité de mon père d'un hectare de vigne. Parce que lui, il aimait aussi bien planter, et ils avaient quand même des vignes. Alors, nous étions 4 gosses, on a tous hérité un hectare de vigne. Et après, l'hectare de vigne... Et ce qui arrive au départ, on a travaillé tous ensemble aussi. C'est-à-dire les 4 enfants, plus mon père. Alors donc, on était sur l'exploitation, ils partageaient en 5.
En société ?
Non, société, jamais de société. Non, moi, je suis un gars, et puis mon père aussi. Pour nous, la société, ça ne nous intéressait pas, malgré des experts fiscaux après sont venus à la maison en disant vous devriez faire une société. Mais payer les gars pour faire la société, nous envoyer des factures, on n'y tenait pas. Alors donc, on n'a jamais été en société. On a travaillé ensemble, le père et puis les 3 frères plus ma soeur, sur l'exploitation. Et on partageait, comme il y avait 4 hectares, si vous aimez mieux, on partageait en 5, parce que mon père, il voulait une part aussi, c'était normal. Et puis au bout d'un moment, les gens qui rentraient, si vous aimez mieux, les gens qui ne faisaient pas partie de la même lignée, ben, ça, si vous aimez mieux, ils disaient, ben, on serait mieux à travailler tout seul, et c'est ça. Alors du coup... Mon père, il dit, allez, vous partez travailler tout seul, et vous allez vous débrouiller. Puis chacun s'est débrouillé, disant que, par contre, il y en a un qui avait voulu investir aux États-Unis, et puis ça n'a pas été. Un de mes frères. Et alors, du coup, moi, j'ai fait aussi, si vous aimez mieux, j'ai toujours acheté des terrains à vigne et puis je les plantais des fois. Le CVC me donnait un hectare, je suis retombé dans un bon moyen parce qu'il me prenait pour un négociant. Parce qu'il voyait qu'on faisait quand même des bouteilles déjà dans ce moment-là, et plus de la récolte. Alors du coup, il était un négociant, mais je n'ai jamais été négociant. Et puis ma femme, comme elle a dit, là, en 60, elle a dit qu'elle a 60, 60, 80, oui, elle a dit tout à l'heure, t'as partagé tes 22 hectares en 4. Et si vous aimez mieux, il y avait ma sœur qui ne se trouvait pas dans les vignes, elle a eu sa part, pareil. Alors après, c'est moi qui lui faisais, si vous aimez mieux. Elle était descendue à Nice, là-bas, pour vendre des bouquins. Alors elle avait été, mais par contre, elle touchait quand même ses locations tous les ans, quoi. Et puis les trois autres ici au pays, ils ont voulu faire avec leurs 5 hectares de vide, faire du comme les parents, quoi, du champagne. Ici à Celle, vous avez Richard Chorlin, vous avez Alain Chorlin et vous avez Christine Chorlin. Et il y avait Daniel Chorlin. Daniel Chorlin également, il y a eu sa part, mais il s'est tué un jour. Au bout de 7-8 ans qu'il faisait la vigne, il s'est tué à la boule. En allant à la boule, déjà livré du champagne, quoi, parce que tous les quatre en faisaient tous le champagne. Et à Celle, où tous les enfants, où tous les noms Chorlin que vous voyez, ce sont mes enfants. Parce qu'en revenant d'Algérie, il y a eu 3 gosses tous les ans, c'est-à-dire un tous les ans. Et après, au bout d'un moment, on croyait que ça n'allait plus marcher. On a remis la gomme à 42 ans. Parce qu'on est nés le même jour, moi et ma femme. Et la même année. Alors, du coup, c'était pas. Il y avait déjà la loi pour arriver à faire passer, mais c'était pas notre point de vue. Alors donc, on a, si vous aimez mieux. Le dernier qui a 20 ans de différence avec le premier. Thomas Chorlin avec Richard Chorlin, ils ont 20 ans de différence. Et le petit dernier, je dis le petit dernier, il y a 34 ans, et je lui ai donné la maison, puisque moi j'étais en retraite, j'ai donné la maison. Ça n'empêche pas que ma femme n'est pas en retraite. On s'est débrouillé. Moi, je me suis débrouillé pour faire un salaire, même si je n'étais pas en société. Et ça me permet de toucher, si vous aimez mieux, une retraite acceptable, quoi.
Mais à l'époque de votre arrière-grand-père,
oui.
La vigne, ça ne valait pas grand-chose, l'hectare, une parcelle de vigne.
Non, il y en a même qui voulaient les donner simplement pour ne plus payer d'impôts foncières, mais ça pour vous donner les dates.
Vous, quand vous avez commencé, ça valait quelque chose
Eh bien, quand j'ai. En 35-36, ça commençait déjà à prendre de la valeur, oui. Et puis après, pour vous dire l'année qui. Qu'on était obligé d'arracher les gamets, je ne me rappelle plus bien. Mais enfin, vous devez les avoir peut-être chez les
quand
autres.
Quand vous avez commencé, c'était quoi comme pied ?
C'était des gamets.
Quand vous avez commencé ?
Oui, il a fallu refaire la Constitution. C'est ça que nous, on est déjà en retard, si vous aimez mieux, d'une génération avec nos copains marnais. On est déjà. Alors, ça a joué quand même pendant ce temps-là. Il y a des gens comme moi qui se trouvaient à l'école. Eh bien, ils n'ont pas les ferrés, parce que vous voyez ici, le fils qui se trouve à Rissé, qui a acheté chez Bonnet, c'est un Nantais au bois, mais il est quand même venu s'installer là-bas. Et par contre, eux, ils ont fait des sous, puisqu'ils avaient déjà une paire d'hectares de vignes là-bas. C'était Portbonnet, c'était dans la montagne de Reims aussi. C'était, enfin, pour vous dire le nom, ça venait de là-bas, quoi. Et puis, et c'est un des fils qui est venu acheter Bonnet, ici à Rissé.
C'est Lançon qui a acheté Bonnet ?
Non. Vous croyez que c'est Lançon qui a acheté Bonnet ? C'est d'après ce que je sais, que je connais un nommé Pré au Agier qui a vendu ses vignes à Lançon. Parce que chez les Préaux, Agier, ils étaient deux frères. Et puis, il y a un frère qui a voulu vendre ses 8 hectares de vignes. Quand il les a vendus, on avait dit que dans ce moment-là, c'était à Lançon. Mais pour vous dire le nom, ça me reviendra peut-être par la suite, qui a acheté Bonnet, je ne crois pas que ce soit Lançon. Peut-être que maintenant, c'est à coquiner avec Lançon, je ne peux pas vous le dire. Hein. Vous le savez peut-être mieux que moi, si vous avez tourné, je ne peux pas le dire.
Mais vous alors, parce que quand vous avez commencé, vous m'avez dit que vous avez acheté de la vigne, parce que vous avez un hectare.
Eh bien, j'achetais.
Jusqu'à 22.
Eh bien, on trouvait des terres, dans ce moment-là, c'était à 80 ou 100 000 euros, 100 000 francs, parce que c'était pas de l'hectare, hein. Et les affaires, elles achetaient en même temps que moi. Les affaires, les friches de l'Est, comme on appelait. Ils achetaient, et puis. Demander des faux notaires. Il n'y en a pas que de remettre ça aux affaires. J'achetais et puis je voyais dans telle et telle place c'était bien pour faire de la vigne. Alors j'allais au cadastre et puis je relevais un peu le nom des gars, disant que les agriculteurs, ils vendaient tout dans ce moment-là. Ils n'en voulaient pas des terres à vigne parce que ça a toujours été que un terrain à culture. Un terrain pour faire de l'agriculture, il payait moins cher qu'un terrain appellation. Alors du coup, il y en a une paire qui s'en sont séparés. Premièrement, mon beau-père, il y avait un peu de vigne, mais comme il savait qu'il ne pouvait plus planter, il dit ça, il s'est fait déclasser le terrain. Pour pas payer des impôts. Et les gens qui ont connu, ils ont connu une vie très dure, ces gens-là, plus que nous, parce que nous, nos parents, ils ont pu ramasser quelque chose, c'est tout.
Et vous avez pu faire de bonnes affaires ?
Ah ben oui, là, sur Gier et Plaine, j'arrivais à faire 5 et 5, 10, et 5, 15, 7, 16 hectares que j'ai pu acheter. Mais c'était des gens qui travaillaient à l'usine à Plaine, ils se fichaient pas mal de leur terrain. Il faut me les acheter pour me débarrasser. Alors je les payais quand même, j'allais pas payer, rien leur donner. Hein.
C'était 100 000 francs, les anciens francs.
Ah ben, je peux pas vous dire, à ce moment-là, c'était 100 000, je sais pas, ça représenterait peut-être en ce moment. 50 euros. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que moi, après le calcul, avec les, je me gourre souvent avec le franc et puis avec l'euro. Alors maintenant, et je suis obligé de prendre l'euro quand même, hein, puisque c'est l'euro.
Ça valait rien.
Ça valait rien. Il y avait des ventes à sel. À sel, ici à sel, ça ne se vendait pas à la vente. Et puis des fois, après la vente, le notaire, les gens, ils allaient voir le notaire. Ah ben oui, on va faire l'acte de vente pour vous. Ils mettaient un franc symbolique. Tous les hautes fioles de sel sur ours, il y en a un qui était goulu des hautes fioles, c'était Tansin. Un homme est Tansin, sel sur ours. Il achetait, ça ne se vendait pas. Les gens, ils montaient pas. Alors. On est arrivé là, dans ce moment-là.
C'était comment les ventes ? Ça se passait comment ?
Les ventes de terrain ? Ben, par notaire. Les gens, ils donnaient ça au notaire, et le notaire, il venait faire une vente à sel. Ou à bord. Ça dépendait des gens qui vendaient.
C'était quoi ? C'était aux enchères ? C'était comment ?
Eh bien, c'est aux enchères, oui. Ben, s'il n'y a personne qui pousse, personne n'achète, quoi. Il n'y a qu'après, le notaire, il dit, je suis obligé de les vendre. Ces gens-là, ils veulent vendre, et ben, ils achetaient ça pour un franc symbolique. Ben, on a connu ça dans l'Aube, c'est tout, hein. Dans la Marne, certainement, que ça ne s'est pas passé comme ça. Ben, parce qu'il fallait quand même reconstituer le vignoble, ce qui a coûté très cher, arraché et puis replanté.
Ça vous a pris du temps ?
Ben, ça a pris quand même 2-3 ans, mais on était quand même 6 ou 7 ans sans récolter. Ben, quand on met un plant de vigne, il faut le labourer, il faut arranger le terrain, planter l'année suivante, attendre 3 ans avant qu'on ait le droit de vendre quelques raisins. Et tout ça, ça lui demande 7-8 ans, quoi. C'est pour ça, je vous dis, on est à peu près dans l'Aube, une génération de moins qu'on a perdu par rapport à nos copains marnais.
Mais le 22, quand vous avez acheté 16 hectares, quand vous aviez une vingtaine d'hectares, tout seul, ça fait pas beaucoup.
Ben si, ben j'ai, disons que je plantais avec un ouvrier au mois de mars, piqueté et planté, j'ai planté jusqu'à 1,5 hectare. Bon, maintenant c'est fini, je suis en retraite et puis je fais que d'aller faire un tour dans les vignes pour voir ce qui se passe. Et en ce moment, les gelées, on va voir ce qu'on va avoir. À mon idée, on a déjà perdu 50% pour cette année. Je ne sais pas si tout le monde vous le dit, je ne sais pas qui c'est que vous avez interviewé, j'en sais rien. Tout du moins, c'est de ces jours-ci, il y a gelé à moins 7, moins 8, hein. Alors, nous, c'est pareil, les arbres fruitiers et tout, tout était nettoyé. Enfin, heureusement qu'on a eu une bonne année l'année dernière, au point de vue fruits.
Et vous êtes toujours allé jusqu'à votre retraite ? Vous avez toujours été dans les vignes, sur le terrain ?
Oui, sur le terrain, mais maintenant, je travaille plus, hein, je travaille plus, je suis en retraite, hein, 78 ans, je peux à peine me baisser et tout. Alors voilà, en revenant d'Algérie, j'étais fou, hein, j'étais parti tous les jours pour acheter des terres. Et puis j'allais avec un notaire le soir, pour ne pas dire le nom, un notaire de Bar-sur-Seine. Il était heureux d'aller faire signer les gens jusqu'à minuit. Maintenant, on n'en trouve plus chez les jeunes notaires, on n'en trouve plus des gens comme ça. Non, il devait être heureux, discuter, puis boire un coup avec les gens, les vendeurs. Et c'était fini, quoi. C'était ça. C'est plus du tout la même vie. Hein.
Non.
Depuis 20 ans, tout se dégrade. Les notaires, bon, le curé, on a encore des relations avec, mais les médecins, on ne peut pas les faire venir à la maison. Il faut venir nous voir. Aussitôt, bah, aller au clos. Bon, non, c'est plus du tout la même vie maintenant. Allez, dans les écoles, je ne sais pas si on leur apprend beaucoup de choses à tous ces gens-là, parce que...
Ça ressemblait à quoi, celle, quand vous étiez enfant ?
Ben, ça ressemblait... à un pays construit en pierre, si vous aimez mieux, et puis... en vieilles tuiles, les tuiles mécaniques qui commençaient à se faire à Saint-Port. Après, les gens, ils ont mis des tuiles de Saint-Port, des tuiles, comment c'est qu'on appelle ça, des tuiles mécaniques. Où sans ça, la tuile, elle venait de l'est de la France, ou alors, il y en avait une qui tournait bien, c'était près de Lusigny, une fabrique de petites tuiles plates, quoi.
Mais c'était riche, c'était florissant ?
Non.
Non, non.
On était les parents pauvres de la terre. Hein, oui. Les agriculteurs étaient...
Ah ben, ça a toujours... C'est-à-dire que les agriculteurs, ils nous ont toujours dit « les vignerons sont des va-nu-pieds ». Ben c'est vrai, nos parents, des fois, ils n'avaient pas de quoi nous acheter une paire de godasses. Ça a changé. Maintenant, c'est eux qui se plaignent. Mais je dis, il ne faut pas qu'ils se plaignent, puisqu'ils touchent des sous à laisser des terrains en friche. Alors donc, il n'y a pas de... Ça a drôlement changé, ça. Et puis, maintenant, je vais vous dire, un vigneron de Champagne n'a jamais touché une subvention. Tandis que les agriculteurs, ils sont mieux peut-être organisés, mais ils touchent toujours quelque chose.
Parce que comment est-ce que ça a changé? C'est-à-dire que la vigne est devenue...
Je suis revenu en 60, à peu près d'armée, 57.
Tu es revenu en 57.
57. Et ben vers 65, c'est là que ça,
oui.
Que ça a bien pris, quoi, tout en étant que nos parents faisaient déjà un peu de champagne et tout, quoi, mais c'était de la bricole, hein, c'était pas du tout, parce qu'ils vendaient aussi du vin. Je vous dis, dans les tonneaux, là, qui venaient sur la place, ils remplissaient les jus de raisin et ça partait comme ça.
Et ça, les mentalités ont un peu changé à partir du moment où...
Eh bien, ici, ça a changé parce que nous, si vous aimez mieux, j'ai connu un peu des temps durs, mais les plus jeunes, ils font un peu de champagne, ils vendent au kilo, et le samedi et le dimanche, ils veulent être libres. Tandis que moi, jusqu'à il y a 10 ans, que je prenne la retraite, 10 ou 15 ans,
on était
ouvert le samedi et le dimanche. Et on vendait beaucoup de champagne, si vous aimez mieux, les veilles de fête ou les lendemains de fête. Hein. Les gens se pensaient. Ben oui. Et puis dans ce moment-là,
les autres étaient
fermés. On avait, si vous aimez mieux, on n'avait pas. On vendait, on faisait un papier à la régie, puis ça partait, quoi. Et la régie, moi j'avais le carnet de régie à la maison. Pour, je ne sais pas ce que. Les fraudes, ils savaient que je travaillais le samedi et le dimanche, alors je faisais le papier pour que les gens ils soient déjà en règle. Et après, il est venu les capsules congés. Alors là, les capsules congés, c'est autant de capsules congés achetées, autant de capsules congés qu'on doit sortir. Et quand on les abîme, on les met de côté, puis quand on a des contrôles, un ou deux, une ou deux fois par an, et les fraudes, quoi, la viticulture, ils nous comptent les capsules congées qui ont été abîmées. Il faut qu'on arrive là, quoi. Parce que pour eux, 20% sur une bouteille de champagne, c'est quand même beaucoup, 19,6 exactement. Et puis, ce gouvernement-là qui était au pouvoir, ils viennent nous mettre un point pour le mois d'octobre. Alors, que ce soit la gauche ou la droite, le point, il sera remis. Ça fait qu'on sera 21,6 de TVA. Ça, c'est un rapport pour l'État vraiment inimaginable, ça.
Parce qu'au début, il y avait beaucoup de fraudes.
Ben, il y en a eu.
Non, mais des fraudes. Là, on ne parle pas de fraude pour le moment. C'est plutôt qu'on vendait. Si vous aimez mieux, on avait... Les gens comme moi, je faisais assez de champagne, ils me donnaient le carnet de régie, et puis les gens, ils avaient ça. Ceux qui habitaient dans le centre de la France, on leur mettait 2 jours pour aller chez eux. Ceux qui habitaient dans le midi, 3 jours. Quoi. Et ce qui arrive, les capsules congées, elles sont venues il y a à peu près, combien, une quinzaine d'années.
Peut-être, je
ne sais pas. Moi, je vous dis, je ne retiens pas les dates. Hein.
Parce que quand il y a des bonnes récoltes,
oui.
Ça fait peut-être mal au cœur de jeter.
On ne jette pas. Ils nous mettent de côté. Hein? Ça s'appelle comme ça, Dédé.
Ce qui arrive, c'est que il y a des années, on va faire plus. Et ben, on est obligé de le distiller. Au-dessus de 12 000 kilos, par exemple, à l'hectare, on est obligé de distiller. Et puis. Il vient des gens, aussi bien des gars de la Marne que du Beaune, ils viennent chercher le jus, et puis pour les payer, rien, pas grand-chose. Alors c'est pareil, hier, j'ai lu un article d'un gars qui écrivait Tulle Vigneron dans le Midi, il disait que c'est pas normal, parce qu'on a eu des années où il y avait de la récolte. Les négociants, ils n'avaient pas besoin de trop de jus, ils nous avaient mis 8000 kilos. Et que maintenant, il leur en faudrait bien plus. Parce que les grandes maisons, elles exportent pas mal. Hein. C'est quand même le moteur, il nous entraîne quand même dans le circuit. Il faut reconnaître qu'il y en a qui critiquent les grosses boîtes, mais elles savent aller à l'étranger vendre leur pinard, quoi. Oui, et puis ce qui arrive, avant, il y avait, si vous aimez mieux, c'est en 70, je crois, que Giscard, quand il est venu au pouvoir, en 70, on n'avait pas de TVA, nous.
Alors, en 74.
Hein?
En 74.
Il est venu, quelque chose, parce que c'est un inspecteur des impôts, Giscard. Alors, il y a vu qu'il y avait quand même un peu de gens qui ne payaient pas de TVA, comme nous, et c'est là qu'il a dit tout le monde paiera de la TVA. Alors, aussitôt, la TVA, elle était à 9 et des poussières, ça a augmenté tout le temps. Et après, celui qui voulait un véhicule pour se promener, ils ont mis la TVA à 33%. On a eu de la TVA à 33%. Et après, ils ont tout remis à 19,6. Puis maintenant, ils veulent remettre plus. Et je crois qu'un jour, un journaliste, il disait, je crois qu'ils vont nous mettre un jour les véhicules utilitaires, véhicules personnels pour se promener, on va le mettre à 33%. Non mais, c'est dingue ce qu'on peut entendre.
Et par rapport à la vie qu'avaient vous avez connu votre arrière-grand-père, vos grands-parents, vos parents, dans les années où le champagne, les ventes et les prix, etc., ont explosé, où les producteurs, les récoltants ont eu une certaine aisance, est-ce que ça ne monte pas un peu à la tête aussi? Est-ce qu'on perçoit un peu...
Certains, mais pas tous.
Pas trop à celles, non.
Non, pas tes parents, pas les miens. Non,
il y en a eu quand même, en voyant que les parents ils ont des sous, ils ont acheté des belles voitures, comme à Bar-sur-Seine, je me rappelle toujours, il y avait un neveu là, fils de ma soeur, belle voiture, et puis ils étaient boîtiers gelés, ils ont rentré à l'entrée de Bar-sur-Seine dans les maisons. Hein. Alors oui, c'est fils de ces gros riches-là qui viennent de foutre la merde d'abord. Il y a eu des trucs comme ça. Quoi.
Oui, non, mais en règle générale, je dis qu'on est resté simple.
Ici, à Celle, oui.
Hein?
À Celle, mais je pourrais vous dire, je ne sais pas si vous avez le droit de le mettre là-dedans, qu'on est deux pays, pour un rien, ils se dénoncent. Je peux les citer, mais enfin, c'est un peu ça. Mais à Celle, personne, si ça fraude un petit peu, il n'y a pas beaucoup de fraude, mais enfin, même si un gars a quelque chose, s'il vend 2-3 bouteilles sans capsule ou quelque chose, les gens, ils disent rien, quoi.
Ah, c'est toute une histoire.
Ça a toujours été comme ça, quoi.
C'est toute une histoire.
Et il y a deux pays dans notre secteur... Pour un rien, ils envoient ça. Bon, j'ai connu un gars, un inspecteur des impôts, qui venait à la maison et dit, de toute façon, vous verriez les lettres qu'on reçoit. Allez chez un tel, chez un tel. Il dit, on ne peut pas aller chez tout le monde. Il dit, on met ça dans le panier. C'est de la jalousie, certainement, que à Celle, il n'y en a pas. Un petit peu comme ça, mais non, mais ça va pas plus loin. Il y en a juste un jour qui m'a dit, ben oui, t'as de la veine, toi tu fais du champagne, moi je vends au kilo, mais moi je m'aperçois que ceux qui vendent au kilo, ils sont très heureux, parce que l'hiver, ils ont le temps d'aller en voyage et puis de taper la belote.
Ce que nous, on n'a jamais fait. Jamais. Moi, je sais pas jouer.
Non, mais nous, c'est un métier... C'était mieux. Ça fait comme le commerçant, il faut toujours être là. Il faut toujours être dans le circuit. Parce que les expéditions, les gens, ils commandent, ils habitent Pétaouchnok ici en France. Pour eux, ils veulent dans les 4-5 jours, dans les 8 jours et tout. Et il faut suivre, il faut suivre. Malgré qu'en ce moment, on voit des bouteilles de champagne dans les hyper, pas trop chères, mais ils continuent quand même à acheter chez nous, parce qu'ils sont habitués. Ils savent que ça arrive devant leur porte.
Mais alors, comment on fait pour profiter de cette richesse si on travaille tout le temps?
Mais on n'en profite pas.
Non, mais la richesse... Non, mais la richesse, il y en a de moins en moins depuis que Mitterrand est venu au pouvoir. Et depuis que la... On ne peut pas dire un an quelconque. Depuis que la Aubry est arrivée, dans un été, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on fasse 35 heures. Que nous, on était toujours habitués à faire... C'est pas 35 heures, on en faisait le double. Hein? Et puis, par contre, j'ai entendu encore un gars, là, ces jours-ci, un syndicaliste ou un gars qui s'est présenté au président de la République. Il a dit, moi, il faut que les gens ils fassent 32 heures pour que tout le monde ait du travail. Mais je ne crois pas que ça marchera, parce que dans notre métier, pour venir travailler la terre, il n'y a pas tellement de gens qui veulent venir gratter, enlever l'herbe dans les vignes, passer les talpes, tailler et tout. Ce sont des métiers assez durs.
Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est, comme disait votre épouse, c'est quand il y a vous, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents, n'ont pas pu profiter, parce qu'il n'y avait pas de richesse à sortir de la vigne et du champagne.
Mes parents, ils ont fait du champagne avant les miens, et donc ils ont peut-être quand même profité un peu plus.
Oui, oui, ben parce qu'il fait du champagne depuis 34. Oui. Alors c'est ça que ça pétille un peu. Les gens, ils venaient, ils ont quand même acheté. Puis je vais vous dire, on ne tenait pas trop de compte comme on fait en ce moment, parce que tant de bouteilles achetées, vous devez en sortir tant, vous en avez une bouteille de temps, il y en a tant, vous ne devez pas perdre plus de 1,5%, et si, et ça... Ça devient, si vous aimez mieux, on tape, comme tout le monde dit, sur les gens qui ramènent des sous à l'État.
Et est-ce que la richesse du champagne a permis au village de Seine de se transformer?
Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui les caves n'étaient pas assez grandes, ils ont fait des constructions. Et puis, si vous aimez mieux, il y en a toujours une paire... qui ouvrent leur cave tel et tel jour. Il y a des bouquins qui se vendent, si vous aimez mieux, à Bar-sur-Seine, au truc de la vigne, et disant que les gens qui veulent connaître les marchands de champagne, ils savent qu'un tel est ouvert de telle heure à telle heure, et puis... Ou alors, il y en a un autre qui est ouvert toute la semaine, sauf le samedi et le dimanche, vous voyez. En ce moment, ça se fait comme ça, quoi.
C'est
plus comme dans le temps. Nous, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient le champagne. Eh bien, on n'était pas beaucoup au pays. On s'est fait une bonne clientèle. Et la clientèle, comme les autres, les trois qui fabriquent du champagne, mes enfants, qui se trouve à Celles-sur-Ours, ils font du champagne. On a laissé notre marque au dernier. Vous savez, il y a eu 20 ans de différence, alors. C'est celui qui habite en 17 Grande Rue. C'est pour ça que maintenant, nous... moi, je suis en retraite, ma femme, elle cultive aussi, parce qu'on ne veut pas quand même, on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. Il faut toujours garder une poire-pousse à soif, et puis...
Et la succession, ça peut être avec le prix de la parcelle, le prix de l'hectare, ça peut être un peu, à un moment un peu...
Mais c'était, si vous aimez mieux, c'est moi le premier qui l'a fait dans le département. J'ai fait, si vous aimez mieux, un bail à long terme. Et j'ai dit au notaire, au bout de 8 jours, vous faites la succession. Tandis que maintenant, un bail à long terme, au bout de 3 ans, on est, si vous aimez mieux, il y a un abattement de 50%. C'est le premier, après ça a passé chez la chambre de notaire, un petit peu d'un côté de l'autre, la loi, elle n'est encore pas votée. Alors moi, je suis le premier ici, dans le coin, qui a fait comme ça. J'ai eu l'abattement, et les prix de la vigne, ils étaient pas chers. Pas comme en ce moment. Mais non, je ne sais pas combien qu'on les a évalués. Dans ce moment-là, c'était en francs. Hein. En 81, tu as dit.
Oui.
Hein, en 81, c'était en francs.
C'est l'année où pour... Mitterrand est venu au pouvoir.
Et Mitterrand, quand il est venu au pouvoir, il était accoquiné avec la femme du Nord. Là. C'est elle qui a fait voter les 35 heures. Et le 8 mai, c'est Mitterrand qui l'a mis en congé. Le jour du 8 mai. Le prochain qui va arriver, il va bien trouver encore un jour pour mettre un jour de congé. Congé payé. Plus les 2 mois déjà qu'on leur donne. Je vous dis, l'un dans l'autre, on travaille à peu près le quart de ce qu'on travaillait au début quand on s'est mis à notre compte. Hein. C'est tout. Ils veulent que ce soit, si vous aimez mieux, la belle vie pour tout le monde. Et je crois que les gens ne sont pas plus heureux pour ça. Parce qu'au travail, on n'est pas dans la débauche.
Et vous vous souvenez de vos premiers souvenirs de...
Des mariages ? Si, je me rappelle qu'à 12 ans, ma mère, parce que ma mère, c'est elle qui a fait la maison, si vous aimez mieux... Parce que mon père, il y avait, de temps en temps, il était malade, mais moi, ma mère, elle portait la pompe à sulfater, et ça faisait 25 litres dans le dos.
Oui.
Et ben, je me rappelle, elle savait qu'on quittait à 4 heures de l'école, allez, c'est assez costaud, elle mettait moitié de la pompe, et puis il fallait qu'on pompe comme ça dans les rayons, pour traiter le mildiou dans les vignes. Parce que si on ne traitait pas le mildiou, on ne récoltait pas. Hein. Et puis après, petit à petit, quand on est en vacances, on n'est pas comme certaines familles où pendant les vacances, les gosses, ils font rien du tout. Il y a des fois des familles qui ont voulu que leurs enfants ils viennent chez nous. On les prenait en stage et pendant les vacances. Alors, ça leur faisait la pièce aux jeunes. Et puis dedans, on a eu un gosse que sa mère, elle a voulu le mettre aux vignes. Il travaillait bien partout. Et ce gosse-là, il faisait ses études entre-temps, puis maintenant, il est devenu pharmacien. Ben, celui qui veut travailler, il doit pouvoir y arriver, quand même. C'est ça, quoi. Le pharmacien. Puis avec ça, il s'est remarié avec une pharmacienne, et ils sont repartis dans le Midi, je crois qu'ils possèdent 2-3 pharmacies. Puis avec des gens qui n'avaient pas grand-chose au départ.
Il va combien dans l'ordre ?
Première vendange.
Je sais que quand on s'est marié.
En 55.
On travaillait le jour et la nuit.
Ah ben. La première vendange, on était 8-10 jours. Je dormais peut-être une heure par jour. Parce qu'il n'y avait qu'un pressoir. Et il fallait bêcher, il fallait faire beaucoup de choses. Et on rechargeait la nuit et tout. Et la journée on vendangeait et puis le soir on rechargeait.
Et vous étiez nombreux ?
Hein ?
Vous étiez nombreux ?
Au pressoir, on devait être peut-être deux quand même, deux pour faire ça. Deux ou trois, mais enfin c'était dur à remonter. Et ça existe encore ces pressoirs-là, après ça des pressoirs cocors, qu'on relevait comme ça avec la bêche autour. Et après, quand on a vu que c'était trop dur, j'avais un nommé Maurice Dorissé, il représentait des pressoirs, il dit il faut acheter le pressoir là, alors on met les raisins dedans et le jus il coule. C'est plus pareil, hein, on ne touche plus du tout. Si on a le mal de les mettre dans le pressoir et puis après de retirer le mort. Puis après on lave et puis on recharge des raisins, alors c'est quand même mieux que.
Que vous
savez
comment exactement alors?
Eh bien, nous on a eu ça. Le premier que tu as acheté, tu l'as acheté, je crois, en 61. Sinon, tu faisais les vendanges chez tes parents. Hein? Je crois que c'était comme ça. Parce que moi, j'ai vécu aussi avec monsieur. Hein?
retour un peu.
Je pense.
Oui, mais c'est à vous de voir. Disons que j'ai. Oui, on a donné l'âge, on a donné tout. Et puis, vous pouvez couper et puis on